Chapitre 33. Jérusalem, bassin méditerranéen. Savi, Daeman et Harman descendirent du toit à toute allure, se retrouvant dans l'une des ruelles les plus étroites. La lueur des étoiles, ajoutée à celle du rayon neutrinique provenant du mont du Temple, leur évitait tout juste de se cogner au mur et de tomber dans les puits, mais les ombres étaient d'un noir absolu derrière les portes et les fenêtres. Daeman, tout essoufflé, ne tarda pas à être distancé. Jamais de sa vie il n'avait couru, même étant enfant. C'était une activité stupide. De plus en plus proche, à quelques dizaines de mètres d'eux dans le labyrinthe de ruelles et de bâtiments courtauds, montait le cliquetis émis par des centaines de voïniks en marche.
« Itbal Yahoud !»
grondait la voix dans ces haut-parleurs que Savi appelait des muezzines. Ils dévalèrent une rue pavée, une nouvelle ruelle obscure, une courette jonchée d'ossements humains luminescents, pour déboucher finalement dans un patio encore plus sombre que la ruelle. Le raclement précipité des coussinets et des manipulateurs des voïniks s'était encore rapproché.
« Itbal Yahoud !»
Le cri amplifié semblait encore plus insistant. « Savi est la seule juive parmi nous, quoi que signifie ce terme !» se dit Daeman hors d'haleine en courant pour ne pas rester seul. « Si Daeman et moi la laissons tomber, les Voynix ne nous feront rien, peut-être même qu'ils nous aideront à rentrer chez nous. Si nous n'avons aucune raison de partager son destin !»
Harman courait sur les talons de la vieille femme, qui traversa le patio et passa sous une voûte en se baissant pour pénétrer dans les ruines d'un antique bâtiment.
« Oh, je peux aussi me débrouiller tout seul !» songea Daeman. « Harman reste avec elle si ça lui chante !»
Il fit halte sur les pavés couverts de poussière. Harman s'arrêta sur un pas de porte enténébrée et lui fit signe de le rejoindre. Daeman jeta un regard par-dessus son épaule, en direction des bruits qui montaient derrière eux, on aurait dit des griffes ou des os évidés raclant la pierre, et la lueur de la colonne bleue lui révéla le premier d'une douzaine de voïniks envahissant la rue qu'il venait de traverser. Il eut un haut le cœur, peu habitué à cette émotion qu'on appelait la peur, se retrouver seul face à elle était ce qui le terrifiait le plus, et prit ses jambes à son cou pour rejoindre Harman et la vieille femme. Celle-ci les entraîna dans une série d'escaliers de plus en plus étroits, dont chacun semblait en outre plus vétuste que le précédent. Arrivée quatre niveaux plus bas, elle attrapa une lampe torche dans son sac à dos et l'alluma, l'obscurité étant à présent quasi totale. Le fin rayon lumineux révéla un mur au pied de la volée de marche et Daeman eut un nouveau haut-le-cœur. Puis il vit ce qui ressemblait à un pan de toile crasseuse dissimulant un trou qui lui parut bien trop petit pour le laisser passer.
« Dépêchez-vous !» chuchota Savi.
Écartant la toile de jute, elle se glissa dans le trou. Daeman perçut des échos qui lui évoquèrent un puits. Harman s'empressa de suivre la vieille femme dans les ténèbres. Daeman entendit des cliquetis dans la vieille maison au-dessus d'eux, mais pas un Voynix ne semblait descendre les escaliers. Pour le moment. Il se pencha au-dessus du trou, y inséra non sans mal ses épaules pourtant étroites, constata qu'il se trouvait dans un puits apparemment sans fond d'un diamètre légèrement supérieur à un mètre, puis toucha du bout des doigts des barreaux de fer scellés dans la paroi opposée et, non sans grognement, fit franchir l'ouverture à son torse et à son bassin, s'éraflant la peau à l'antique plâtre jusqu'à ce que ses jambes pendent dans le vide. Puis ses pieds trouvèrent un autre barreau rouillé et il entreprit de descendre, rassuré par les bruits étouffés lui parvenant de Savi et d'Harman au-dessous de lui. Un courant ascendant d'air frais lui caressa le visage. Ses mains et ses pieds passaient en hésitant d'un barreau à l'autre. Puis il entendit des murmures, constata qu'il venait de poser le pied sur le dernier barreau et chut d'1,50 m atterrissant sur un sol en brique. Les mains d'Harman l'aidèrent à retrouver son équilibre. Il vit la lampe de Savi éclairer un tunnel cylindrique aux parois de pierre ou de briques millénaires.
« Par ici !» murmura-t-elle.
Et elle se remit à courir, prenant soin de courber le dos pour ne pas se cogner au plafond bas. Harman et Daeman l'imitèrent, repérant les irrégularités du sol grâce aux rayons de sa lampe. Ils débouchèrent sur un croisement. Savi consulta sa paume et obliqua à gauche.
« Je n'entends pas de Voynix derrière nous !» dit Harman.
Il avait chuchoté ces mots, mais l'écho de sa voix résonna dans le boyau incurvé. De loin le plus grand du groupe, il était obligé de se pencher davantage que ses compagnons.
« Ils sont au-dessus de nous !»
répondit Savi.
« Ils nous suivent dans les rues. »«
Ils se servent du Proxnet ?»
s'enquit Daeman.
« Oui !»
Elle fit halte à une nouvelle jonction où trois passages s'offraient à eux, choisit celui du centre. Le plafond était de plus en plus bas. Arman jeta à Daeman un regard plein de curiosité, se demandant visiblement de quoi il était question, mais estimant que le moment était mal choisi pour s'informer.
« C'est vous qu'ils suivent, vous savez ?»
ajouta Savi. Elle marqua une pause pour fixer Daeman, puis Arman. À la lueur crue de sa lampe, son visage semblait plus vieux, plus cadavérique que jamais.
« À toi ?»
dit Daeman, surpris. Elle fit non de la tête.
« Je n'apparais sur aucun réseau. Les Voynix ne savent même pas que je suis ici.
C'est vous qui avez fait réagir leurs scans Farnet et Proxnet.
Je crois que le portail fax le plus proche se trouve à Mantoue. Ils savent que vous n'êtes pas venu ici à pied. « Où allons-nous maintenant ?»
chuchota Daeman.
« On retourne au Sony ?»
Savi secoua la tête une nouvelle fois. Ses cheveux gris, mouillés par la sueur ou l'humidité, étaient plaqués sur son crâne.
Ces tunnels ne dépassent pas le périmètre de la vieille ville. Et les Voynix ont mis le Sony hors d'état de marche. Je me dirige vers le rampeur.
Rampeur ? Répéta Daeman. Sans les éclairer davantage, Savi se retourna et se remit à avancer dans les tunnels. Au bout de 100 pas, le boyau se transforma en un étroit couloir qui, à l'issue de 30 pas supplémentaires, déboucha sur un escalier s'achevant sur un mur. Daeman eut l'impression que son cœur allait lui fracasser les côtes.
Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire?
Il se retourna vers la noirceur des tunnels, tendant l'oreille en quête d'un bruit de Voynix.
Grimpez,
dit Savi. Il se retourna de rechef, découvrant Savi en train de se hisser dans un nouveau puits, bien plus étroit que celui qu'ils avaient naguère emprunté, emportant avec elle la seule lumière dont ils disposaient. Arman sauta en l'air pour attraper le dernier barreau, rata son coup, jura doucement, fit une nouvelle tentative couronnée de succès et se hissa. Daeman distingua à peine le bras de son aîné lorsqu'il se tendit vers lui.
« Dépêche-toi, Daeman. Les Voynix nous attendent sans doute déjà là-haut.
Pourquoi monter les rejoindre alors ?
Vite !»
Arman empoigna l'avant-bras de Daeman et le tira. Les Voynix défoncèrent les portes de l'édifice alors que les humains montaient à bord du rampeur. La gigantesque machine occupait la quasi-totalité de la partie centrale de ce que Savi avait identifié comme une antique église. Lorsqu'ils avaient émergé de la crypte, découvrant les lieux à la lueur tremblotante de la lampe torche, Daeman avait marqué une pause, hésitant à mettre un nom sur ce qu'il voyait. Le rampeur évoquait une énorme araignée à 6 pattes, chacune de ses roues, hautes de 4 mètres, étant reliée par des essieux articulés à un volumineux châssis sur lequel était fixé un habitacle sphérique émettant une lueur laiteuse. Avant même que Savi gravisse l'échelle d'accès fixée à l'un des essieux, murs et portes se mirent à trembler comme sous des coups de boutoir.
« Faites vite !»
avait-elle lancé, se dispensant de chuchoter. En queue de peloton, comme d'habitude, Daeman lui avait décerné le titre de « reine des phrases inutiles ». Une fenêtre condamnée, creusée 20 mètres plus haut, implosa soudain, ouvrant la voie à 5 Voynix dont les lames découpaient la pierre comme du papier. Leurs têtes couleur de rouille, dépourvues de toute trace d'yeux, se braquèrent lentement sur le rampeur et les 3 fugitifs qui tentaient de pénétrer dans son habitacle. Un geyser de pierre jaillit d'un autre mur et une 12 de Voynix supplémentaires s'introduisirent dans l'église. Savi pressa un cercle rouge sous la sphère blanche, tapota sur le petit digicode jaune qu'elle avait ainsi fait apparaître et une section du globe s'ouvrit en grinçant. Elle se glissa à l'intérieur, Arman la suivit, et Daeman y entra à son tour alors que le premier Voynix fonçait sur eux à toutes pattes. La porte coulissante de la sphère se referma. 6 sièges baquets en cuir craquelé étaient disposés en son centre, et les 2 hommes s'assirent de part et d'autre de Savi tandis que celle-ci passait une main au-dessus d'une excroissance métallique placée devant le siège central. Apparut alors devant elle un panneau de contrôle virtuel, bien plus complexe que celui du Sony. Elle appuya sur un cadran rouge, fit glisser un cercle jaune vif le long d'une règle verte et inséra sa main dans un gant de contrôle.
« Et si ce rampeur ne démarre pas ?» demanda Arman.
Daeman le couronna aussitôt roi de la requête déplacée. Une 20aine de Voynix montèrent sur les roues, puis telles des sauterelles surdimensionnées bondirent sur la sphère de verre. Daeman se rencogna sur son siège.
« S'il ne démarre pas, nous sommes morts !»
répliqua Savi. Elle tira le gant sur la droite. On n'entendit ni bruit de moteur, ni bourdonnement de gyroscope, rien qu'une vibration si basse qu'elle était quasiment subsonique. mais des faisceaux lumineux jaillirent devant le rampeur et une douzaine d'affichages virtuels apparurent au-dessus du tableau de bord. Les Voynix, qui s'affairaient à tambouriner sur la sphère, glissèrent soudain pour se retrouver à terre 6 ou 7 mètres plus bas. Ils n'étaient ni blessés ni endommagés. Tous se relevèrent aussitôt et repartirent à l'assaut pour retomber à nouveau, incapables de trouver la moindre prise sur la surface à laquelle ils s'accrochaient quelques secondes plus tôt. « Un champ de force d'un micron d'épaisseur », marmonna Savi, concentré sur les icônes et autres signes lumineux peuplant le panneau virtuel. « Antifriction. » Conçu pour empêcher la neige et l'eau de pluie de s'accumuler sur la bulle, mais, semble-t-il, tout aussi efficace pour chasser les Voynix. Daeman se tourna vers la vingtaine de créatures qui s'acharnaient sur les roues, sur les filets tendus entre les essieux, et finalement sur ces derniers. « On ferait mieux d'y aller !» dit-il. « Oui, » fit Savi. Elle poussa la manette virtuelle, et le rampeur sortit de l'église en fracassant un mur, tombant d'une hauteur de 4 mètres, avant de se rétablir sur ses roues articulées et de foncer à toute vitesse. Le passage qu'il avait emprunté était un tantinet trop étroit, mais cela ne le gênait nullement. Les murs, plusieurs fois millénaires, s'effondrèrent autour de lui, jusqu'à ce qu'il débouche dans la rue de David et, obéissant à sa vie, oblique vers la gauche, mettant le cap à l'ouest, dans la direction opposée à la colonne de lumière bleue qui poignardait toujours le ciel. D'innombrables Voynix se lancèrent à sa poursuite, pendant que leurs congénères se dressaient sur sa route, tentant en vain de bondir sur l'habitacle sphérique. Sans faire mine de ralentir, bien au contraire, le rampeur écrasa ce qu'il ne put éviter, laissant derrière lui le reste de la meute. Une demi-douzaine de créatures, parmi les plus têtues, restaient accrochées aux essieux et s'efforçaient de démolir les roues à coups de griffes.
« Est-ce qu'ils peuvent faire des dégâts ?» demanda Arman.
« Je n'en sais rien, » répondit Savi. « Nous approchons de la Shor Yaffa, la porte de Jaffa. Voyons si nous pouvons nous débarrasser d'eux. »
Elle percuta délibérément les murs bordant la rue David sur la gauche, puis sur la droite, achevant sa course dans une porte voûtée, en principe trop basse pour laisser passer le rampeur. Les Voynix lâchèrent prise sous une grêle de pierre, mais Daeman vit la majorité d'entre eux se relever pour se joindre à la meute lancée à leur poursuite. Puis le rampeur franchit la porte, sortant de la vieille ville, et fonça en accélérant encore vers la colline où ils avaient laissé le Sony, à présent enseveli sous 6 mètres de rochers et cerné par 40 ou 50 Voynix. Ceux-ci quittèrent aussitôt leur poste pour tenter de leur couper la route. Savi en écrasa certains, en évita d'autres, et gagna une antique route filant vers l'ouest.
« Voilà une machine robuste !» commenta Arman.
« C'est ainsi qu'on les construisait vers la fin de l'ère perdue !» répondit Savi. « Avec une bonne nanomaintenance, elle peut fonctionner éternellement. »
Elle avait attrapé dans son sac à dos les lunettes de vision nocturne qui équipaient sa thermopeau et roulait désormais tout feu éteint. Daeman n'était guère rassuré à l'idée de foncer ainsi dans la nuit, d'autant plus qu'ils entendaient les grandes roues broyer des artefacts rouillés traînant sur la chaussée, sans doute d'antiques véhicules. Il vit qu'ils franchissaient un pont à vive allure, puis prenaient un raccourci pour passer entre deux collines. Il ne distinguait plus les Voynix lancés à leurs trousses, tout ce qu'il voyait derrière eux c'était la colonne de lumière dressée au-dessus de Jérusalem, mais il savait qu'il n'avait pas renoncé. Savi les informa qu'une 50aine de kilomètres les séparait de ce qui avait jadis été la mer Méditerranée. Ils franchirent cette distance en moins de 10 minutes.
« Regardez ça !» annonça-t-elle en ralentissant.
Elle ôta ses lunettes à vision nocturne et alluma les phares, ainsi que les projecteurs et les feux anti-brouillard. 500 ou 600 Voynix s'étaient massés pour former un mur là où la terre basculait en direction du bassin méditerranéen.
« Demi-tour ?» demanda Arman.
Savi fit non de la tête et accéléra. Par la suite, Daeman devait comparer le bruit produit par la machine entrant en collision avec tous ses Voynix à celui de la grêle tambourinant sur un toit de métal, un son qu'il avait entendu à Oulan-Bat bien des années auparavant. Sauf que ces grêlons-ci étaient sacrément gros. Le rampeur arriva sur ce qui avait été la grève, Savi leur cria de s'accrocher et le véhicule s'envola pendant 10 secondes, franchissant l'espace séparant le rivage de la mer disparue. Puis les 6 roues heurtèrent le sol, les essieux stabilisateurs jouèrent leur rôle et ils foncèrent dans le bassin, leurs phares projetant dans les ténèbres des cônes de lumière. Daeman se retourna et vit les voïniks survivants, découpés en ombres chinoises par la lointaine lueur bleue, alignés sur le rivage.
« Ils ne nous suivent pas ?»« Dans le bassin ?» dit Savi. « Sûrement pas !»
Elle ralentit pour adopter une vitesse plus raisonnable, mais avant qu'elle chausse ses lunettes et éteigne les phares, Daemon vit qu'il suivait une route d'argile rouge et lisse traversant une campagne verdoyante. Dans les ténèbres, il distingua des croix de métal noir dressées au-dessus des champs de blé, de maïs, de tournesol et de lin. Chacune de ces croix portait ce qui ressemblait à un corps humain nu et pâle, agité de convulsions.